Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui lui aussi était devenu disciple de Jésus. Cet homme alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul propre et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait creuser dans le rocher. Puis il roula une grosse pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 57 à 60.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
Dans très peu de temps, le monde chrétien va célébrer la fête de Pâques. Cette fête de Pâques est donc intimement liée à un lieu, à Jérusalem, qu'est le Saint-Sépulcre. Car effectivement, dans la foi chrétienne, c'est à la fois le lieu où le corps du Christ a été déposé après la Passion et où il est donc ressuscité. L'histoire de ce bâtiment traverse une très grande partie de l'histoire de Jérusalem. Au début du IVe siècle, quelle est la disposition du lieu où l'on va construire le Saint-Sépulcre ? Après la révolte juive de 132-135, l'empereur Hadrien avait fait construire un grand forum où se dressait un temple dédié à la triade capitoline. Et il avait transformé Jérusalem en une cité romaine du nom de Aelia Capitolina. Or, avec l'édit de Milan de 313, le christianisme était donc devenu une religio licita, une religion autorisée. Et donc, dès les années 320, arrive à élaboration l'idée de construire sur la tombe de Jésus de Nazareth une église pour commémorer ce moment et commémorer la résurrection. En 325, l'impératrice mère Hélène arrive à Jérusalem et soutient un projet que défend également l'évêque Macaire, évêque de Jérusalem, qui contacte Constantin pour avoir des fonds afin de construire une première église. D'autant plus que dès le IVe siècle commence les pèlerinages chrétiens vers la ville. Sur l'ordre de Constantin, on fait araser le forum d'Hadrien, on va dégager le tombeau supposé de Jésus de Nazareth et construire à la place un ensemble de bâtiments destinés à glorifier la passion du Christ, mais également sa résurrection. La question est de savoir, évidemment, a-t-on exactement là le lieu de la sépulture du Christ. J'avais posé la question au professeur Pierre Maraval, qui avait enseigné pendant de nombreuses années l'histoire du christianisme primitif à la Sorbonne. Celui-ci me disait que, à ses yeux, la mémoire chrétienne avait dû garder la mémoire, l'esprit, le souvenir du lieu où était l'emplacement de la résurrection du Christ. Ce qui fait que pour lui, il était fort probable que ce soit effectivement le lieu de la sépulture de Jésus. Il était par contre beaucoup moins assuré en ce qui concerne les objets de la Passion. Au centre de la rotonde donc, que Constantin fait construire, se trouve finalement un système organisé de la manière suivante. Il y a d'abord un atrium qui permet aux pèlerins d'entrer dans une basilique à nef avec double collatéraux de part et d'autre. Puis, au-delà même du cœur de l'église, se trouve une cour qui garde le souvenir du Golgotha, avec un rocher censé avoir eu la croix du Christ. Et un peu au-delà se trouve le tombeau du Christ, où il y a effectivement la dalle sur laquelle a reposé le corps du Christ, et pour les chrétiens, bien sûr, la résurrection. Il s'agit donc de l'anastasis, c'est le lieu le plus haut de la spiritualité chrétienne et le plus sacré de la religion chrétienne. Cet ensemble de bâtiments est consacré le 13 septembre 335. À partir donc du haut Moyen-Âge, le Saint-Sépulcre devient un lieu de pèlerinage par excellence. une destination prestigieuse pour toute la chrétienté occidentale. Le problème, c'est que la ville a connu des soubresauts. D'abord, elle a été saccagée en 614, et les Perses, qui sont les responsables de ce saccage, ont abîmé la basilique. Ensuite, en 638, les musulmans se rendent maîtres de la ville de Jérusalem. Or, l'autorité musulmane ne gêne pas la liberté du culte dans la basilique de la Résurrection, où se trouve donc le Saint-Sépulcre. Et le culte chrétien peut y poursuivre sa route et sa spiritualité. Par contre, il est vrai que les autorités musulmanes font payer un droit d'entrée dans la ville et à l'entrée du Saint-Sépulcre. Au début du XIe siècle, le Saint-Sépulcre a été abîmé par l'initiative d'un sultan qui, au-delà même des chroniques chrétiennes, apparaît quelque peu dérangé dans les chroniques musulmanes elles-mêmes. Il s'agit du calife fatimide Al-Hakim, qui, se pensant investi d'une autorité divine, avait persécuté les chrétiens, les juifs et même certains musulmans qui n'étaient pas dans sa ligne politique. Et en 1009, Al-Hakim avait pratiqué un saccage du Saint-Sépulcre. Or, en fait, à partir de 1027, les relations entre l'Empire byzantin et les califes s'étant améliorées, l'empereur Michel IV et le calife Al-Mustandir Billah se mettent d'accord sur la restauration des lieux saints. Ainsi, la monarchie byzantine reconstruit le Saint-Sépulcre grâce à des collectes effectuées dans toute la chrétienté et aux donations de l'empereur byzantin lui-même. Ce travail de restauration est achevé en 1048 sous Constantin IX. Mais 50 ans plus tard, au moment de la première croisade, lorsque les croisés prennent la ville, le Saint-Sépulcre va être complètement reconstruit et ce que nous voyons aujourd'hui à Jérusalem est en fait largement l'héritage de cette église construite entre le début du XIIe siècle et le milieu du siècle, puisqu'elle est à nouveau consacrée le 15 juillet 1049, soit exactement jour pour jour, 50 ans après la prise de la ville par les croisés chrétiens. Mais, dans sa longue histoire, le Saint-Sépulcre a connu, au début du XIXe siècle, un événement assez tragique qui l'a ravagé. En 1808, l'église est fortement abîmée par un incendie qui provoque l'effondrement du dôme et qui brise donc beaucoup de décorations extérieures et à l'intérieur de l'église. Le tsar de toutes les Russies obtient la permission des autorités turques de réaliser la restauration au nom de l'église orthodoxe, dont les fidèles financent les travaux. C'est pour cela que depuis ce moment, les orthodoxes s'estiment finalement les maîtres des lieux. Nous avons un témoignage d'un architecte grec qui a pu témoigner justement de la nouvelle reconstruction de l'église par les financements russes. L'édicule est couvert par un toit plat surmonté d'un dôme central de style moscovite en forme d'oignon soutenu par des colonnes. Les côtés latéraux sont décorés d'inscriptions grecques qui invitent les peuples et les nations à louer le Christ ressuscité. Derrière les chandeliers des différentes communautés, la façade de l'édicule est entourée par des colonnes torsadées, des guirlandes, des corniches, des inscriptions, des tableaux et des lampes à huile. À vrai dire, l'édifice du Saint-Sépulcre a, au cours du XIXe siècle, connu d'autres dommages. En particulier, des intempéries avaient abîmé l'oculus qui était à ciel ouvert dans le dôme jusqu'en 1868. Et donc, il a fallu faire à ce moment-là, face aux dégâts des eaux qui abîmaient l'église, faire une nouvelle coupole en fer et avec un oculus couvert cette fois-ci. D'autre part, on s'est aperçu que, en 1927, un tremblement de terre a fragilisé l'ouvrage. Et l'autorité britannique, qui dirigeait la Palestine à l'époque du mandat de l'entre-deux-guerres, avait des projets de restauration, mais avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, puis la fin du mandat britannique en 1947, eh bien, les travaux ont été toujours finalement repoussés. Et la situation géopolitique de la ville de Jérusalem, que nous avons eu l'occasion d'aborder dans des chroniques précédentes, n'a pas favorisé finalement une vraie campagne de restauration. En fait, la vraie campagne de restauration, elle est toute récente, puisque c'est à partir de 2016 que le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem a autorisé les membres de l'Université nationale d'Athènes à contrôler l'état de la tombe, afin de vérifier si celle-ci était suffisamment protégée. Et donc, on a lancé également toute une série de restaurations pour consolider, nettoyer le bâtiment. Une grande partie, d'ailleurs, du financement de ces travaux a été effectuée par la monarchie jordanienne, qui s'est toujours finalement plus ou moins vécue, même si dans la réalité ce n'est pas le cas, comme protectrice des lieux saints de la vieille ville. Ainsi, c'est dans un Saint-Sépulcre rénové que les pèlerins peuvent aujourd'hui à nouveau finalement chanter les louanges du Christ ressuscité, puisque c'est vraiment le lieu ou jamais de le faire. En tout cas, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous d'heureuses fêtes de Pâques.